Et bien, on va prier pour que le Seigneur bénisse ce moment. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore voir le privilège que nous avons d'être réunis ici ce soir autour de toi. Ce privilège qui va nous amener dans peu de temps au ciel, pour l'éternité, où nous serons semblables à Christ. Seigneur, bénis ta parole. Nous ne pouvons pas, mais nous te demandons ton intervention dans nos cœurs pour nous convaincre de toutes les vérités dans nos vies, pour que nous puissions t'honorer. Amen. Alors, on va lire dans le livre de l'Exode, et on prendra au chapitre 33. Exode 33. Et on lira à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Donc, Exode 33, verset 18. Moïse dit: « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit: « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit: « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit: « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et dans le chapitre 34, on va reprendre, continuer notre lecture plutôt, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. L'Éternel dit à Moïse: taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de mon heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: « L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Et toujours dans le chapitre 34, les versets 29 et 30, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quelle parole et quel moment, évidemment, pour Moïse. Moïse voulait voir Dieu, pas par curiosité, vu son parcours, mais il voulait voir Dieu, celui qui l'avait guidé, celui qui il voulait l'utiliser. Mais personne ne peut voir Dieu et vivre. Là, le Seigneur vient de le dire, c'est clair. Alors, Moïse a eu un contact personnel avec l'Éternel, puisqu'il lui a parlé, et la gloire de l'Éternel lui donnait un visage qui rayonnait. Quelle réalité! Ça a dû être à ce moment-là. Et Moïse voulait chercher à connaître l'Éternel. Et cette rencontre avec l'Éternel qu'il a eue là, allait lui donner une vie intérieure nouvelle. Il avait rencontré l'Éternel. Et il a pu s'engager à ce moment-là au service de l'Éternel pour guider le peuple dans la sortie d'Égypte. Et Dieu va remplir le cœur de Moïse de sa présence spirituelle, et non pas visuelle, puisque c'est impossible, parce que Moïse veut rencontrer Dieu et lui demander la foi en sa parole. Il y a une réelle volonté de Moïse de rencontrer l'Éternel, parce qu'il veut le servir. Et si on prend maintenant, on va passer dans le Nouveau Testament, Dans Hébreux, au chapitre 11, on lira des versets qu'on connaît bien sûr tellement bien, on lira les deux premiers versets. Hébreux, chapitre 11, où c'est la définition de la foi que Dieu veut nous donner. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été fermé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et dans cette définition de la foi, qui est la nôtre, pour nous aussi, cette définition extraordinaire, c'est une assurance des choses qu'on espère. On ne les a pas. Mais Dieu veut qu'on en soit assuré, simplement en les espérant par la foi en sa parole. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce n'est pas dans notre niveau, puisque nous ne pouvons avoir une démonstration que ce que l'on voit. Et on va voir que dans tous ceux qui ont été des exemples d'hommes et de femmes de foi, il y a aussi Moïse qui a rencontré l'Éternel, donc en bas du Sinaï. Et au verset 24, on va lire maintenant ce qu'a été le chemin de Moïse à travers cette foi, après sa rencontre avec l'Éternel, au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et Moïse avait cette foi dans son cœur, des certitudes, après cette rencontre avec l'Éternel, et ces certitudes allaient lui permettre, par la grâce de Dieu, de remplir le ministère vis-à-vis du peuple pour cette sortie de l'emprise de l'ennemi d'Égypte. Et la première chose qu'il a, c'est un choix dans son cœur. Ce choix, il avait un choix extraordinaire, Moïse certainement comme aucun homme n'a jamais eu, de devenir le fils, enfin il était par adoption le fils de la fille de Pharaon, avoir tous les trésors de l'Égypte, qui était le plus grand royaume du monde à ce moment-là. Tous les trésors étaient pour lui. Eh bien, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance du péché. Et pour lui, l'opprobre de Christ, on voit que par la grâce de Dieu, l'opprobre de Christ, donc qui était déjà dans son cœur, avait plus d'importance que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux déjà fixés sur la rémunération. Et cette rémunération, ça allait être de pouvoir accomplir ce que Dieu lui demandait. Et pour après, c'était l'éternité. Moïse avait déjà, dans sa vision céleste, tout le plan de Dieu. Et il y a ce verset 27, par contre, qui est remarquable. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il avait de quoi être effrayé de la colère du roi. Parce que Pharaon pouvait le prendre et le mettre à mort immédiatement. C'est évident. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été effrayé? Il s'est montré ferme comme voyant celui qui est invisible. Il n'a pas vu celui qui est invisible, mais c'est comme voyant celui qui est invisible. Parce que dans son cœur, Dieu lui avait parlé. Et c'est comme s'il le voyait. Et voyant l'Éternel, il n'a pas été effrayé de la colère du roi. Et bien dans nos vies aussi, le Seigneur, tous ces exemples sont pour nous, Il veut que nous puissions aussi nous montrer fermes, parce que nous sommes les enfants de Dieu par Jésus-Christ, et ne pas être effrayés de la colère de Satan qui se déchaîne souvent contre nous dans les épreuves, et qui nous effraie. Voilà pourquoi on a tous ces exemples de ces hommes et des femmes de foi. Et dans le Nouveau Testament également, nous voyons que plusieurs des témoins de Jésus ont voulu voir le Père également, comme Moïse avait voulu. On va prendre dans Jean 14. Jean 14, on lira à partir du verset 7. Jean 14, verset 7. « Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et là, cette demande de Philippe, le Seigneur permet qu'il puisse dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et pour nous, comme c'est important, puisque nous ne pouvons pas voir le Père, de savoir que le Seigneur Jésus est dans le Père et que le Père est en lui. Quelle grâce pour nous de savoir que nous sommes sous la bienveillance du Père par le sacrifice de Jésus qui, lui, nous est révélé. Et ceci est pour nous. Donc, il nous advient maintenant de devoir chercher à voir Jésus dans nos vies. Ça, c'est exactement ce qu'il nous est dit ici. À le rencontrer au plus profond de notre esprit par le Saint-Esprit qui le met en nous. C'est le chemin que veut le Seigneur dans ces demandes que faisaient les uns et les autres dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Rencontrer Jésus dans nos cœurs. Parce qu'en lui est le Père et que lui est dans le Père. Et dans Hébreux 12, le Seigneur l'a confirmé. On va prendre Hébreux 12 maintenant. Et on lira les deux premiers versets. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, Darby nous dit, fixant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons donc, pour notre plus grand bonheur, fixer nos yeux sur Jésus. Tout le reste doit être derrière, secondaire, tout ce que nous pouvons faire dans le domaine spirituel. Le bonheur de notre cœur et la joie de Dieu, c'est que nous fixions nos regards sur Jésus. Et quelle invitation! Nous savons que là, nous trouverons tout. Nous trouverons absolument tout, il y a tout pleinement en lui. Et il nous est dit exactement la même chose dans la première de Pierre. On va prendre la première de Pierre parce que cette pensée, évidemment, le Seigneur l'a développé plusieurs fois pour que nous en soyons persuadés et que nous puissions, dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien, prendre ce chemin dans toutes nos difficultés, et il y en a, pour être dans cette sécurité de fixer nos regards sur Jésus. Première de Pierre, premier chapitre, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyant lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'apôtre Pierre aussi, lui, amène à nouveau à fixer nos yeux sur Jésus par la foi dans les circonstances qu'il met dans nos vies. Et on va encore prendre dans Philippiens 3, Épître aux Philippiens, chapitre 3, et on lira ce que dit l'apôtre lui aussi, après avoir rencontré le Seigneur. Ainsi, au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Le but est à nouveau fixé de façon claire pour l'apôtre Paul après qu'il ait fait la rencontre du Christ sur le chemin de Damas. Et pour avoir cette révélation spirituelle, nous devons simplement, mais complètement, venir à lui. Venir à lui, sans intermédiaire, complètement. Et c'est le Seigneur qui l'a dit lui-même dans Matthieu 11, on va prendre Matthieu 11, et on lira versets 28 à 30 qu'on connaît. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et l'on voit qu'en venant à lui, on va découvrir ce Seigneur de gloire, mais ce Seigneur qui est doux, humble de cœur, et qui veut nous transformer à son image à lui. Quel projet aussi le Seigneur Jésus a en nous appelant à venir à lui. Et Étienne, lui, fait partie de ceux qui ont vu Jésus également, et on fait un peu voir plusieurs personnes, mais c'est important qu'on ait des témoignages. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, livre des Actes, chapitre 7, on lira à partir du verset 54, c'est une fois qu'Étienne a parlé, au verset 54 du chapitre 7, en entendant ces paroles, les paroles d'Étienne, donc qui condamnent les chefs religieux, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Et ce qui nous est rapporté à propos d'Étienne, vraiment est quelque chose de remarquable. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et je pensais, en préparant ça, que à tous ces martyrs qui vont arriver à la fin, nous pouvons penser aussi que le Seigneur Jésus est avec eux, debout, pour leur permettre de passer l'heure du sacrifice. Le Seigneur est là, il est présent. Et Étienne est venu à lui. Et par tous ces exemples, le Seigneur ce soir nous invite encore à nous aussi à comprendre que notre seul chemin, c'est d'aller à lui. Par tous ces versets que nous sommes en train de partager. Et Saul de Tarse, ce fanatique qu'on connaît bien, une fois qu'il a eu rencontré Jésus, évidemment, il a fait aussi une chose, c'est que il a mis toute sa vie devant le Seigneur. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dès qu'il l'a rencontré, qu'il a été convaincu de péché, que le Seigneur lui a dit qu'il lui serait dur de regimber contre les aiguillons, « Que veux-tu que je fasse ?» Et à ce moment-là, pour Paul, toute sa vie a basculé. Il a donné toute sa vie au Seigneur Jésus qu'il avait rencontré. Et c'est pour ça que dans Galates, au premier chapitre, on va prendre Galates premier chapitre, on lira au verset 11, Galates 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il avait son contact avec le Seigneur et celui-ci a pu lui révéler sa personne, sa souffrance, sa résurrection, illuminer son cœur et ainsi il a pu faire son chemin. Et Paul nous dit à ce moment-là, dans Acte 20, on va reprendre Acte 20 maintenant, puisque c'est la suite de son témoignage, Acte 20, verset 24. Acte 20, 24. Paul dit maintenant, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quelle transformation dans cet homme. Il était entièrement donné à son Seigneur qui lui avait révélé par le Saint-Esprit, qui avait illuminé son cœur, que Jésus avait illuminé pour lui montrer ce chemin qu'il voulait prendre. Et lui le dit aussi, ça ne va pas le prendre, je vous le dis, dans 1 Corinthiens 9 au premier verset, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ?» On voit dans tous ces exemples combien la personne du Seigneur a pris un jour tous ses frères et sœurs, s'est révélé à eux, les a amenés à lui, « Venez à moi » pour transformer leur vie et que lui seul allait compter. Et il y en a combien d'autres, bien sûr. Si bien que tous ces chrétiens qui ont fait cette rencontre du Seigneur, cette révélation qu'il leur a donnée, avaient un point commun. Ils voulaient le voir, le rencontrer. Moïse avait commencé pour connaître la profondeur du Sauveur, pour connaître la profondeur du cœur de Dieu, pour connaître ses souffrances, pour connaître son amour, pour voir sa résurrection, pour voir sa présence réelle effectivement au ciel, comme l'a vu Étienne et comme le dit Pierre, afin d'obéir à la vision céleste et ne pas résister à cette vision céleste. Ils avaient tout ça dans le cœur. Une fois qu'ils l'ont rencontré, obéir à la vision céleste, ne pas y résister. Et le but de leur vie à ce moment-là, c'était le service de Jésus, uniquement. Aller à lui et le servir. Et ainsi pouvoir annoncer l'évangile, comme disait Paul, pour amener les âmes, les tirer de l'enfer et pour les amener au ciel. Tous ces exemples sont pour nous. Et en réfléchissant, pour moi le premier, est-ce que nous voulons demander à Dieu aussi de nous révéler Jésus dans sa gloire spirituelle? Mais pour cela, est-ce que je suis prêt à lui offrir ma vie? Parce qu'on a vu que pour tous, ils ont offert leur vie. Sinon, ils n'auraient pas pu recevoir cette grâce spirituelle. Dieu ne l'aurait pas donnée. On ne peut pas se moquer du Seigneur. Est-ce que je suis prêt à lui offrir ma vie pour le servir? Ce n'est pas toujours le cas dans ma vie, je l'avoue. Mais le Seigneur nous y invite encore ce soir. Et pour ça que Ésaïe 6:8, vous savez qu'Ésaïe, quand il a été convaincu de péché et que ses lèvres ont été guéries, on pourrait dire, par les charbons ardents, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est la Trinité, bien sûr. Je répondis, Seigneur, envoie-moi. La vie était changée. Seigneur, envoie-moi. Et c'est pour nous, c'est uniquement pour nous. Et c'est ainsi, si nous voulons servir le Seigneur, alors il va se révéler à nous, nous emmener dans le chemin de son service. Et la vie avec lui, on en a déjà vécu une partie, et on sait quand on lui obéit, quand on veut le servir, combien il nous donne de bénédictions dans cette vie. Combien, et on reçoit à ce moment-là tous ces fruits de l'Esprit. On va les reprendre, on terminera là-dessus. Ces fruits de l'Esprit, dans Galates, au chapitre 5, verset 22, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On lit et on aime ces caractéristiques des fruits de l'Esprit. Mais nous ne pouvons les recevoir parce que c'est les fruits du Seigneur, du Saint-Esprit. Ils habitent en Jésus, ces fruits. Il veut nous les donner par le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons les recevoir que si nous mettons, si je mets ma vie à sa disposition, si je vais à lui dans tous mes besoins, si je veux pouvoir le servir là où il m'envoie. Sinon, nous ne pouvons pas recevoir ces fruits de l'Esprit. Ça m'a beaucoup parlé. Ça, on pense que les fruits de l'Esprit, ils viennent parce qu'on est chrétien et puis qu'on appartient au Seigneur et qu'il va nous les donner. Oui, mais il ne peut nous les donner que si nous voulons les recevoir. Et pour le recevoir, c'est donner notre cœur pour le servir. C'est aller à lui, simplement dans tous nos besoins, avec confiance, et puis marcher sur la route où il nous emmène, et nous connaîtrons cette vie avec lui. Après tous ces témoignages, tous ont le même témoignage. Puis le Seigneur veut que nous aussi, nous ayons, pour notre plus grand bonheur, le même témoignage. Voilà, c'était quelques paroles que j'avais reçues pour les partager entre nous.